rendez-vous de midi. Et on va parler de ce combat de Quentin et cette belle soirée qui arrive vendredi, Emmanuel.
Oui, vendredi à Chalon, on découvre effectivement l'association Le Combat de Quentin, portée depuis le mois de février par Virginie et Benoît Hivernogeau, ses parents. Quentin est décédé il y a un an, le 8 novembre, des suites d'un lymphome. Il avait 20 ans. Vendredi, l'association vous attend très nombreuses et nombreuses, salle Louis-Claude Roux à Chalon. C'est une idée en fait de Stéphane Atrousse, mais pas seulement d'ailleurs, je crois que c'est surtout sa fille, on va l'expliquer. Stéphane, du musicien, on connaît bien ici hein, évidemment, du BBS, le Big Band des Sables. Bonjour Virginie, bonjour Stéphane.
Bonjour.
Voilà, c'est un concert caritatif qui se prépare. Merci à vous de Virginie de venir nous parler évidemment de l'association et évidemment de Quentin aussi. C'est un long combat que votre fils a mené. 2 ans, je crois, de lutte contre un lymphome, contre un cancer particulièrement rare et agressif chez un jeune garçon. Comment la maladie s'est manifestée et déclarée ?
Alors déjà, merci beaucoup de me recevoir et de me donner la possibilité de témoigner. Donc Quentin s'est plaint dans un premier temps de mal de gorge, en fait. Donc tout simplement, au départ, on pense à une angine. Voilà, on traite une fois, on traite deux fois, ça persiste. Les semaines passent. Après, on se dit, tiens, c'est peut-être une mononucléose, quelque chose de classique qu'on rencontre à cet âge-là. Donc on pense à vraiment des choses toutes bénignes. Les semaines passent aussi. Alors il faut savoir qu'à cette période-là, il rentrait tout juste en études supérieures, donc il était étudiant sur Nantes. Il rentrait pas toutes les semaines non plus. Donc nous, on voyait ça d'un petit peu loin aussi. Et puis, au fur et à mesure, son état s'est dégradé, son état physique aussi, puisqu'il a perdu du poids, ses difficultés à déglutir se sont amplifiées. Et pour terminer, que son frère m'appelle à un moment en me disant « Maman, Quentin va pas bien du tout. » Et puis, je pars le chercher, je l'emmène aux urgences au CHU de Nantes. Et puis, des examens ont été passés, IRM, scanner, biopsie, et puis donc le diagnostic est tombé. Alors c'est un lymphome qui s'appelle le lymphome TNK, extra-ganglionnaire de type nasal. En France, on en dénombre entre 30 et 50 cas par an en France. La moyenne d'âge est entre 50 et 60 ans. Et ça touche, c'est une pathologie qui est connu beaucoup en Asie. Et donc en fait Quentin ne cochait aucune de ces cases-là. Et voilà, malheureusement c'est des choses qui
rarissime. Et quand le diagnostic tombe, on vous dit que le cancer est connu comme agressif.
Alors oui, je dirais que... Alors on nous a en fait malheureusement pas donné effectivement beaucoup d'explications et on en parlera après. C'est peut-être un petit peu aussi la raison de cette association. Donc effectivement, pas beaucoup d'explications. Nous, on découvre par nous-mêmes un petit peu sur des documents, sur Internet, sur tout ça, effectivement, que c'était un cancer qui se développe de façon très 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 rapide et qu'il faut prendre en charge donc rapidement pour pouvoir avoir des chances.
S'ensuit effectivement ce combat qu'a mené votre fils et puis vous évidemment avec lui, Virginie. Alors, beaucoup d'auditeurs vous connaissent peut-être et certainement puisque vous êtes à la tête d'une pharmacie à Chalon avec votre mari. Le milieu médical, vous le connaissez bien, vous le maîtrisez depuis des années, mais c'est pas pour autant qu'on est préparé évidemment à la maladie de son enfant et au parcours aussi qu'il va devoir suivre.
C'est ça. Alors, je dirais que notre statut de professionnel, on le met de côté. Quand on vit quelque chose comme ça, on est tout simplement des parents. Et effectivement, on ne veut pas voir ce genre de choses. En fait, déjà, on n'imagine même pas que ça existe. Alors, même si on le sait, mais je vous assure, quand vous le vivez, vous ne l'imaginez pas pour vos propres enfants. Donc, en fait, ça a mis beaucoup de temps à être accepté par nous, par Quentin, bien évidemment, parce que on veut nier une situation comme ça parce qu'elle est violente. Donc nous en tant que professionnels, au contraire, je dirais que quelque part ça nous a peut-être desservi parce qu'on n'a pas voulu déranger les professionnels de santé qui l'ont pris en charge à l'hôpital, sachant qu'on était dans une période encore Covid, donc on savait qu'ils étaient très surchargés par le travail. Donc au contraire, on s'est mis plutôt en retrait, on a fait une confiance entière. Alors je ne sais pas, un regret hein, mais du moins on ne s'est pas imposé, on a voulu vraiment rester en retrait, nous informer un petit peu de notre côté et laisser à eux le fait de le gérer entièrement.
Mais j'imagine que c'est pas plus simple pour des familles qui sont pas du tout dans le milieu de la santé. On reste devant nos médecins plein de respect et puis on n'ose pas, comme vous dites.
Tout à fait, mais en fait je dirais qu'il faut faire confiance, c'est important.
Bien sûr.
Mais malgré tout, de plus en plus, je pense qu'il faut aller chercher l'information malgré tout, parce qu'elle ne vient pas systématiquement à nous. Et en tout cas, demander à son professionnel de santé des explications. Ils sont là pour ça aussi. Donc, j'encouragerais quand même, en tout cas, à aller chercher de l'information quand il y a besoin, parce que de temps après, on peut regretter de pas, avoir demandé toutes ces informations.
C'est un peu ce qui vous a motivé à créer l'association le Combat de Quentin. C'est en fait, en tant que parent et professionnel de santé, vous avez découvert des manques et vous les avez vécus et constatés aussi.
Ben voilà, effectivement. Donc, quand il manque une annonce diagnostique en bonne et due forme, c'est-à-dire un temps d'annonce dédié et qu'on n'a pas eu, ça manque effectivement. Quand on nous propose pas forcément ce qu'on appelle les soins de support, donc d'avoir une proposition pour avoir un soutien psychologique, pour avoir une proposition de diététique, de soutien diététique, de sport pour notre enfant. Tout ça, c'est des choses en fait quelque part qu'on a découvert après. Qui existe et effectivement qu'on ne nous a pas proposé. Alors, et c'est vrai que c'est violent. En plus, ça rajoute à la violence de se dire pourquoi on ne nous en a pas parlé. Et effectivement, moi maintenant que j'ai découvert tout ça, mon souhait avant tout, c'est de pouvoir effectivement dire que ça existe, de pouvoir passer l'information tant auprès des jeunes, de leur famille, que des professionnels de santé.
Et oui, votre cible, c'est vraiment les familles et ces agis. Alors moi j'ai découvert ce terme que je pense beaucoup de titres.
Aja. Ça veut dire adolescent, jeune adulte.
Voilà, les 15-25 ans qui peuvent être touchés par des cancers, par des lymphomes et leur famille. Vous le dites, c'est après le décès de Quentin que vous découvrez que des dispositifs, que des associations existent. Et vous êtes dit, il faut pas laisser les familles et les patients dans l'ignorance comme ça en fait. Vous avez décidé de créer l'association après son décès ou vous y pensiez déjà?
Alors, on n'y pensait pas du tout parce qu'on était dans le combat et on était dans la volonté farouche qu'il vive, et lui aussi. L'association, elle nous a été suggérée par le professeur Chevalier, qui est le chef de service de dermatologie du CHU de Nantes, qu'on a rencontré plusieurs semaines après le décès de Quentin, avec lequel on a voulu discuter pour faire le point, dire justement un certain nombre de manquements qui nous est revenu un petit peu, on a senti qu'on avait cette volonté de pouvoir partager nos ressentis et qu'ils puissent les écouter. Et à cette occasion-là, effectivement, il nous a dit, écoutez, il y a deux choses à faire, ou vous écrivez un livre ou montez une association. Sur le coup, j'ai trouvé ça complètement hors propos, dans le sens qu'on était dans une telle souffrance que et puis véritablement, mais très rapidement, c'est-à-dire peut-être quelques jours après, ça m'est apparu comme une évidence, en me disant je ne peux pas ne rien faire, je ne peux pas me taire, et puis c'est une façon de faire son deuil, c'est une façon de se rendre utile, de canaliser une certaine colère. Et puis en plus, en tant que professionnelle de santé, j'avais une certaine idée que j'avais cette possibilité d'agir, et ne rien faire, ça aurait été presque se rendre complice de quelque chose. C'est-à-dire que vraiment, c'est pour moi une mission. Une mission pour soutenir les autres, en disant moi j'ai traversé ça, je sais qu'il faut faire autrement, il faut donner des outils, il faut donner de l'information, il faut soutenir d'une certaine façon. Donc c'est mon devoir de le faire.
Et donc une des premières missions, c'est effectivement l'information. C'est un des premiers but de l'association, faire connaître ces associations, ces dispositifs qui existent pour les familles, pour l'entourage, pour les patients. Et vous avez aussi très vite eu en tête de créer un propre parcours de soins plus adapté en travaillant avec d'autres acteurs de santé du territoire.
Alors en fait, le parcours de soins, à l'hôpital, on n'a pas on peut rien faire, tout est déjà bien établi, il y a des protocoles, il y a tout ça. Par contre, effectivement, en tant que professionnelle de ville, je me suis dit que nous, professionnels de ville, on pouvait apporter notre petite part dans ce parcours de soins, à savoir que le jeune, quand il sort de l'hôpital, il faut qu'il y ait des choses qui existent. Et effectivement, il n'y a pas grand chose. Et en fait, l'hôpital nous dit tout le temps oui, si vous avez un problème, venez nous voir. Sauf qu'ils sont chargés, ils ne peuvent pas répondre à toutes les demandes.
Et c'est pas
toutes
les demandes.
Pardon ?
Et ils ne sont pas tout près non plus.
Non, mais complètement, tout à fait. Il y a la distance, il y a la disponibilité, il y a effectivement même les ressources humaines sur place, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un manque indéniable de professionnels tels que des psychologues, par exemple, au CHU de Nantes. Et donc, moi, l'idée, c'est de dire... Si la proposition ne peut pas être faite à l'hôpital pour une raison ou une autre, et elle doit pouvoir exister en ville. Et effectivement, je me suis entourée, j'ai sollicité un des professionnels de santé qu'il puisse m'entourer justement pour créer une équipe référente avec donc des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, kinés, psychologues, vraiment un réseau assez large pour qu'on puisse travailler ensemble sur effectivement ce parcours de soins. En ville, aussi d'améliorer le lien ville-hôpital, c'est-à-dire quand le jeune il sort de l'hôpital, qu'il puisse être détecté rapidement en ville, pour justement pouvoir bénéficier d'informations, d'accompagnement. Les soins de support sont indispensables aussi, qu'il puisse être plus facilité dans la rapidité, dans l'accès, dans le coût, c'est-à-dire que notre association elle a pour but aussi, s'il y a un soin de support qui est non remboursé, non pris en charge par la Sécurité sociale, que notre association puisse effectivement le financer.
Donc vous démarrez sur un projet qui est local, en ce qui vous concerne évidemment, avec la CPTS, donc Communauté Professionnelle Territoriale de Santé LVO, Loire-Vendée-Océan, avec la MSP, Maison de Santé Pluriprofessionnelle Les Roseaux. Ça a démarré, vous avez commencé à travailler, et la finalité c'est que ce parcours, il soit partagé, développé sur toute la Vendée et toute la région, voire plus loin encore.
Voilà, donc moi l'idée c'est vraiment, avec cette équipe, de travailler sur toutes les ressources qui existent déjà, enfin toutes les informations qui existent, les ressources, d'avoir un répertoire aussi de professionnels, et puis après de partager ce travail. En fait, le but c'est pas de le garder pour nous, c'est vraiment de pouvoir le partager donc en commission, enfin je sais pas si ça s'appelle une commission, enfin en inter CPTS, c'est-à-dire il y a 7 CPTS par exemple en Vendée, et de pouvoir effectivement le donner à toutes les CPTS en disant il a été travaillé, maintenant prenez-le, et puis s'il y a un jeune qui sort dans votre CPTS, il y a déjà eu un travail qui a été fait, que ça puisse avancer très rapidement. Le but c'est de pouvoir, enfin que le jeune puisse tout de suite bénéficier effectivement d'outils de ce travail.
Qu'il ne soit pas seul évidemment.
C'est ça, absolument.
Alors au programme, la création d'un kit remis à l'hôpital, et ça y est, les premiers ont été remis, mais aussi des levées de fonds pour la recherche. Vous avez déjà, je crois, même remis 10 000 euros à l'association pour le développement et l'étude des leucémies et maladies du sang, qui est attaché au service d'hématologie clinique du CHU. Vendredi, concert caritatif, belle occasion de réunir aussi des fonds autour de jazz, de musiciens, de renom aussi de jazz. On va en parler dans 3 minutes avec vous, Virginie et Stéphane. Justement, on va écouter le BBS. Vous pouvez nous présenter ce qu'on va écouter. C'est Yes, My Darling Daughter.
Oui, tout à fait. C'est une chanson qu'on reprend, nous, avec l'orchestre, avec le BBS. On le joue et avec Marie-Christine Leverrier, la chanteuse qu'on a régulièrement avec nous, et les Clams. Donc voilà.
Je crois que c'est la une, mon cher Arnaud.
Très bien, oui, voilà.
J'espère.
On parle par signe. On va le voir tout de suite, on va l'entendre tout de suite.
J'espère qu'on ne se trompe pas. Oui, on va l'entendre tout de suite.
C'est tout.
Et moi j'ai vu Stéphane faire le petit geste de finale. Oui. Ambiance jazz, mais oui, vive le. Alors moi j'ai envie de dire le BBS, non le BBS, le Big Band des Sables, qui sera vendredi soir, salle Louis-Claude Roux, pour l'association Le Combat de Quentin, qui a déjà organisé une première soirée d'information en septembre, mais là c'est plus festif, plus grand public. Virginie Hivernojo, je crois que c'est Stéphane qui vous a proposé. On va expliquer pourquoi cette soirée, mais la volonté de faire une soirée grand public pour réunir des fonds, c'était important, j'imagine, pour vous aussi.
Ah bah complètement. Moi, quand Stéphane m'a envoyé un petit message en disant qu'il avait cette idée, alors avec Manon, il expliquera qui est Manon, de nous soutenir par l'intermédiaire effectivement de son groupe et de la musique. Enfin, j'ai été particulièrement touchée parce qu'en plus la musique, c'est quelqu'un de la famille, c'est Stéphane, voilà, je l'apprécie beaucoup, voilà, Manon, toute la famille, mais aussi parce que la musique, ça reste quelque chose d'universel, ça reste gay, donc effectivement pour quelque chose malgré tout de tragique, il y a l'idée aussi de cette gaieté pour dire on construit quelque chose et il y a l'engagement, le soutien et tout ça par la musique, c'est tellement universel, ça parle tellement à tout le monde que moi ça m'a beaucoup touchée.
Stéphane, j'imagine que vous n'avez pas hésité une seconde. C'est votre fille donc qui a eu l'idée de ce rendez-vous pour Quentin.
Oui, voilà. En fait, donc Quentin, c'est notre petit cousin. Et Manon était très proche de Quentin. Elle a beaucoup accompagné pendant son parcours, effectivement, de soins. Et ça s'est révélé comme une évidence. Donc, on voulait être acteur aussi. Nous, quand Quentin est décédé, on n'était pas, en France à ce moment-là. Et donc on a très très mal vécu effectivement sa disparition, ça a été vraiment difficile pour l'ensemble de la famille. Et puis moi en fait aussi j'ai eu un parcours de soins, j'ai été malade toute l'année dernière comme ça. Donc ça m'a effectivement touché à double titre en fait. Et je trouvais ça tellement important de transcender un petit peu aussi ce moment-là par le biais de la musique, tu le disais à l'instant Virginie, c'est effectivement un moyen de faire parler les émotions, de donner libre cours un petit peu à ces émotions de cette manière-là, et puis de se grandir, de faire des choses, de partager des choses de manière, plus... Enfin, de réussir à dépasser les choses en fait comme ça.
Voilà, il a exprimé plein de choses envers lui. Le BBS, c'est un big band. Vous êtes combien de musiciens sur scène?
On est 18.
18 musiciens. Voilà. Et vous n'êtes pas que chef d'orchestre, vous allez jouer.
Oui, je joue. Alors, je m'occupe de la direction artistique de l'orchestre maintenant depuis 15 ans. Et puis, je joue, oui, je suis soliste forcément dedans aussi. Et puis, on partage un petit peu justement le pupitre de soliste avec les musiciens aussi de l'orchestre et c'est un répertoire qui est assez éclectique, qui reste un jazz très populaire dans la mesure où c'est effectivement un jazz de répertoire qui court depuis les années 30 jusqu'à aujourd'hui.
D'accord. Aussi, et avec un invité de marque, un pianiste.
Alors c'est un ami, c'est Armel Dupas. C'est un ami pianiste avec qui j'ai eu l'occasion de jouer depuis une quinzaine, une vingtaine d'années maintenant. Oui, ça fait pas loin de 25 ans qu'on se côtoie et qu'on se connaît bien. Et puis Armel était très touché en fait que je lui propose ça, parce que lui aussi dans sa famille a eu une disparition suite à la maladie comme ça, au cancer. Et effectivement, il n'a même pas hésité une seule seconde. Il m'a dit oui, tu peux compter sur moi. Envoie-moi le répertoire. Je vais travailler ça. Et puis voilà. Et donc, du coup, Armel sera là. Et ça coïncide en plus avec la sortie de son album en trio. Donc, il m'a dit écoute, voilà, je suis très heureux d'être là vraiment et de pouvoir faire quelque chose.
Donc bon, on a beaucoup de joie et d'ambiance aussi hein, dans cette soirée de jazz, concert caritatif, et puis de l'information aussi au cours de la soirée. Alors il ne nous reste pas énormément de temps, il nous reste 3 minutes et quelques, Virginie. Informer, c'est la première mission de l'association Le Combat de Quentin. Dans vos projets, vous avez eu assez vite en tête aussi la création d'un kit remis à l'hôpital pour les patients aussi, avec des informations très variées, et puis des petits outils aussi. Et ça y est, les premiers kits, vous n'avez pas attendu, hein, ça n'a pas été long, ils sont mis en place. Qu'est-ce que vous avez mis dans ce kit?
Alors, il y a effectivement donc des informations, notamment sur un certain nombre d'associations locales et nationales qui peuvent venir en soutien aux jeunes. Et j'ai répertorié notamment les associations, par exemple AIDA, On est là, 20 ans, un projet, qui sont des associations vraiment de soutien spécifique pour les jeunes. Il y a aussi des informations sur la préservation de la fertilité, parce que c'est quelque chose de crucial à cet âge-là. Il y a des informations sur comment prendre soin de sa peau pendant les traitements de chimio qui sont agressifs, qui dessèchent la peau. Il y a aussi des outils tout à fait pratiques, un semainier pour pouvoir ranger ses médicaments, ça facilite un petit peu le quotidien. Il y a un plaid, parce que il y a des allers-retours à l'hôpital, des choses comme ça, donc dans une ambulance, on est bien content d'avoir un petit plaid, un petit coussin pour se reposer. Il y a aussi une pochette trieur pour ranger toutes les ordonnances, les rendez-vous, parce que je vous assure qu'on vous remet un paquet de feuilles comme ça, puis faut tout trier. Il y a aussi un bel agenda où on peut noter les dates de rendez-vous, les questions à poser, ces traitements médicamenteux avec des conseils aussi associés. Enfin, quelque chose, un petit vernis à ongles pour les jeunes filles qui protègent les ongles pendant les traitements de chimio. Et d'autres choses.
Vous avez pensé à tellement de choses. Dans vos projets, vous l'avez évoqué, un soutien financier peut-être envisagé pour les familles, et puis évidemment pour la recherche. Et déjà, vous avez remis, je crois, plus de 10 000 euros, mais pas seulement, pour la recherche concernant les hémopathies, les maladies de sang malignes chez les AJA rares. On rappelle AJA, adultes, jeunes, adolescents, ou adolescents, jeunes adultes, à l'inverse, 15-25 ans. Donc vous avez reçu, vous avez transmis des premiers dons. Et depuis un an, en une minute, hélas, Virginie, il y a eu plein de beaux élans de solidarité qui vous ont accompagné, qui continuent de vous accompagner.
Voilà, allez, pour en noter quelques-uns, les Hirondelles Soulandaises, le club donc de foot nous ont soutenus. Quentin y a joué pendant une bonne dizaine d'années. Une petite patiente, Madame Lebert, nous confectionne des petites souris en laine qu'on vend au profit de l'association. Et puis l'OGEC, dernièrement, la LOGEC de Chalon nous a versé les bénéfices du bar lors du cross Uxelles Vendée dernièrement.
Et si vous voulez effectuer un don, n'hésitez pas, vous allez sur LOSO, vous recherchez le combat de Quentin, et on peut effectuer un don tout au long de l'année, évidemment. Et pour vendredi, il reste quelques places pour aller voir ce beau concert du BBS. Et on va aussi sur LOSO. Alors non, c'est pas sur le combat de Quentin, il me semble, hein, pour les places.
On peut taper le combat de Quentin, et puis on tombe sur, de toute façon, la page LOSO.
Voilà. On y partage à Chalon, vous avez une billetterie, et dans votre pharmacie du Grand Palais à Chalon. On espère que il faut que la salle soit pleine. Qu'il n'y ait pas un fauteuil de libre, et on y est presque. Allez-y, prenez vos places. Arnaud, vous y serez aussi, on peut le dire.
Oui, tout à fait, avec grand plaisir. C'est un accompagnement. On m'a posé la question, j'ai plus de voix, je suis désolé.
Mais oui, c'est la fin de matinée, il est 6h ce matin.
Voilà, et c'est vrai, quand on m'a posé la question, je dis oui, bien évidemment, d'emblée, je serai là, et avec la radio, ça va de soi.
Merci Arnaud.
Merci à tous. À vous, plein de pensées, puis que la soirée soit belle et pleine.
Merci Emmanuel. C'est parti tout seul, voilà. Belle journée sur Nov, ma radio, les infos arrivent et continuent. Alain Souchon.